commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Bonjour, on vote aujourd'hui en Croatie. Des élections législatives anticipées se tiennent après une campagne éclair visant à élire les 151 députés du Parlement national. Le choix des Croates se situe entre la continuité avec le parti de la droite conservatrice HDZ du Premier ministre actuel qui domine la vie politique depuis 30 ans et le parti social-démocrate du président sortant Zoran Milanovic, un chef de l'État bouillonnant qui a suscité de nombreuses polémiques ces derniers mois, au point que son positionnement politique est devenu plus incertain. Reportage à Zagreb de notre correspondant Louis Seyé.
Ici ou là, de rares affiches et quelques stands installés sur les grandes places de Zagreb rappellent l'approche des élections. Pour ces législatives 2024, la campagne se déroule surtout sur Internet et les plateaux de télévision, mais aussi au sein des universités comme dans cette salle de la faculté des sciences politiques. Cheveux teints en blond et piercing au nez, Karlo Vedak est le vice-président des jeunes du SDP, le Parti Social-Démocrate. Le militant de 25 ans défend le slogan du parti, le titre d'un groupe de rock croate des années 80.
Des rivières de justice, pour moi, c'est un slogan qui annonce l'avènement tant attendu de la justice et de l'équité dans un État qui baigne dans la corruption. Notre État s'est asséché moralement, financièrement et structurellement à cause de cette corruption. Notre société sera à nouveau fertile quand elle sera inondée par des fleuves de justice qui résoudront ce problème de la corruption, l'un des problèmes majeurs en Croatie.
Dans le viseur de la dizaine de formations d'opposition, l'Union démocratique croate, le HDZ du Premier ministre Andrej Plenković, conservateur et nationaliste. En 8 ans et 2 mandats, les scandales politico-financiers se sont multipliés autour du parti et pas moins de 30 ministres ont dû démissionner pour des soupçons de corruption. Une situation que dénonce l'actuel président de la République, le social-démocrate Zoran Milanovic, qui dit vouloir chasser les voleurs du pouvoir. Malgré l'avis de la Cour constitutionnelle, le président a refusé de démissionner et il fait campagne pour briguer le poste de Premier ministre. Certains y voient un risque pour les institutions démocratiques, mais pas ses jeunes soutiens comme Karlo Vedak.
Jamais au cours de sa longue carrière, Zoran Milanovic n'a entrepris quelque chose qui représenterait un risque pour la démocratie. En revanche, il y a autre chose qui constituerait une menace pour la démocratie en Croatie. Ce serait un troisième mandat du gouvernement HDZ. On voit aujourd'hui que les libertés journalistiques sont étouffées, que des institutions indépendantes sont utilisées pour ignorer des organismes comme la Commission sur les conflits d'intérêts. L'État est en fait totalement capturé par un parti unique et c'est à cela que nous voulons mettre fin.
Au fil des semaines, la campagne électorale s'est transformée en un duel entre le Premier ministre et le Président. Mais les prises de position du président candidat Milanovic font polémique au sein même de l'opposition. Discours anti-migrants, attaques des associations féministes, surenchères nationalistes pour séduire les Croates de Bosnie-Herzégovine. Bien loin d'un homme de gauche, certains voient même en lui un Trump croate opposition pro-russe. Le politologue Tomislav Klauski.
Sa rhétorique est totalement celle de Trump. Il n'a aucun frein, ne fait pas de politiquement correct. Il lance toujours des accusations lourdes, des polémiques, etc. Mais outre son attitude, il y a aussi ses positions sur la guerre en Ukraine. Il n'a jamais condamné l'agression russe contre l'Ukraine. Et ses tendances pro-russes se vérifient aussi avec ses liens politiques au niveau de l'ensemble de l'Europe. Des formations qui soutiennent la Russie. La politique de Zoran Milanovic leur ressemble. Un populisme de droite, anti-migrant, anti-libéral, sur les traces d'Orban.
Alors que ces sorties populistes sont au centre des débats, Zoran Milanovic a proposé de fédérer les oppositions afin de mettre un terme à 30 ans d'hégémonie du HDZ sur les institutions croates. Un front mené par son SDP allant de l'extrême droite au parti de gauche. Tête de liste de la formation de gauche écologiste Mojemo, créditée de 8% dans les sondages, Sandra Benčić devrait mener les négociations pour un accord post-électoral. Cette juriste activiste critique les déclarations polémiques du président, mais elle préfère faire front commun face à la droite au pouvoir.
Les discours de Milanovic sur les migrants ou les femmes sont absolument inacceptables pour nous, et nous le disons bien clairement. mais affirmer qu'il est pro-russe, c'est juste stupide. C'est le discours que le HDZ au pouvoir tient contre l'ensemble des formations d'opposition. C'est un mensonge sans précédent. Nous, depuis 2015 et la création de notre mouvement politique, nous avons toujours mis en garde contre l'influence russe extrêmement néfaste qui s'est manifestée à travers la politique énergétique de la Croatie et qui s'est concrétisée par le rachat du groupe Fortenova. Quand j'ai critiqué ces accords, le Premier ministre Plenković m'avait accusé de discriminer la Russie. Et 2 ans plus tard, il est devenu un grand anti-russe.
L'issue du scrutin s'annonce incertaine et les deux principaux partis politiques cherchent à convaincre les abstentionnistes qui représentent près d'une personne sur deux en Croatie. Le président candidat a convoqué les élections un mercredi, déclaré jour férié pour les inciter à voter.
Accent d'Europe vous emmène en Ukraine à présent. Où au-dessus de la ligne de front se mène un autre genre de guerre, une guerre de l'information en temps réel. Dans les conflits modernes, en effet, tout se sait, le front est de plus en plus transparent et les drones qui surveillent et attaquent sont redoutables. Brouiller leur capacité de communication est donc devenu l'un des nerfs de la guerre. À Kiev, les explications de Pierre Alonso.
Voir sans être vu, le principe est vieux comme la guerre, mais il change de dimension avec la prolifération des drones. En Ukraine, ils sont aujourd'hui si nombreux, d'un côté comme de l'autre, qu'ils voient tout, ou presque. Ils rendent le champ de bataille transparent. Des modestes quadrocoptères au modèle parcourant plusieurs centaines de kilomètres, les engins pilotés à distance scrutent en permanence l'ennemi. Détecter ses mouvements, guider les tirs d'artillerie, filmer des images pour la propagande, les armées ne peuvent plus se passer de cet « œil déporté » comme l'appellent les militaires. Leur neutralisation est donc cruciale pour prendre l'avantage. C'est même une question de vie ou de mort avec la multiplication des drones kamikazes. Appelés FPV, ceux-ci traquent leur cible avant d'exploser à l'impact, comme si un obus restait en lévitation jusqu'à ce qu'il trouve sa cible. Sur le front, une bataille invisible se joue donc. Elle a pour théâtre les longueurs d'onde, les fréquences qu'il faut brouiller pour couper les transmissions des drones ennemis. Dans le sud de l'Ukraine, l'armée russe a disposé des brouilleurs le long de ses lignes de défense. Moins spectaculaires que les fossés ou les obstacles anti-chars, mais très efficaces, les drones ukrainiens se sont cassés les ailes dessus pendant la contre-offensive de l'été dernier. En réaction, Kiev a lancé à plein régime la production de brouilleurs, devenus les meilleurs amis des soldats, ainsi que le mauvais temps qui cloue au sol les drones.
Il a été élu à la tête de la Slovaquie. Peter Pellegrini s'est imposé à la présidentielle et c'est notre Européen de la semaine. L'ancien Premier ministre l'a emporté face au diplomate pro-européen Ivan Karchok. Et c'est aussi une victoire pour l'actuel chef de gouvernement, le nationaliste Robert Fico, dont Peter Pellegrini a toujours été l'un des meilleurs alliés, Julien Chavanne.
Oui, toute sa carrière politique, cet économiste de formation l'a faite sous la bannière du SMER SD, le parti de Robert Fico. Peter Pellegrini a été élu député en 2006, avant d'enchaîner les postes de ministre aux finances, au sport. Il a aussi été président du Parlement avant de devenir Premier ministre. À la place de Robert Fico, à 48 ans, à peine le voilà élu président de la Slovaquie. Un parcours fulgurant grâce notamment à une certaine souplesse idéologique. C'est ce que nous explique Jurak Mariusak. Il est chercheur en sciences politiques à l'Académie slovaque de sciences à Bratislava.
C'est un homme politique très pragmatique et la plupart du temps, il a agi comme un technocrate. Il a toujours été en quelque sorte le numéro 2 au parti SMER et il a toujours été dans l'ombre de son mentor politique, Roberto Fico.
Peter Pellegrini s'est présenté ces derniers mois comme un modérateur dans la coalition gouvernementale.
C'est vrai, il s'est porté garant de l'adhésion de la Slovaquie à l'Union européenne et à l'OTAN, malgré son refus d'aider l'Ukraine. Au soir de son élection, il a aussi promis d'unifier le pays très divisé.
Je serai aux côtés de la Slovaquie et les intérêts slovaques seront toujours prioritaires pour moi, quelle que soit l'opinion des gens.
À la présidence du pays, Peter Pellegrini continuera à servir Robert Fico, un discours pro-russe et nationaliste. S'il a fini par lancer son propre parti, le HLAS, Peter Pellegrini n'a jamais vraiment rompu avec son mentor politique. Milan Nitsch est analyste au Conseil allemand de relations internationales, un centre de réflexion basé à Berlin. Il est né en Slovaquie et pour lui, le nouveau président pourrait finalement prendre des libertés par rapport au chef du gouvernement.
Il va essayer de créer son propre chemin. J'imagine que Peter Pellegrini va essayer d'aider le gouvernement, mais que dans le même temps, il pourrait être un bon partenaire pour ses homologues étrangers, atténuer les dérives de Fico et apporter un autre canal de dialogue pour garder la Slovaquie dans l'orbite de l'Union européenne et de l'OTAN, même si Robert Fico se rapproche de Viktor Orbán ou de Moscou.
Mais à Bratislava, Juraj Mariuszak ne croit pas un instant qu'il puisse jouer un contre-pouvoir à l'homme fort du pays, notamment parce qu'il aura besoin de Robert Fico pour se faire réélire.
Il sera dépendant du soutien politique de Roberto Fico, parce que Fico sera le garant de sa réélection et de la poursuite de sa carrière politique. Donc il ne va jamais faire quoi que ce soit contre lui.
Il est plutôt jeune, on l'a dit, et il a des passions qui détonnent un peu dans le monde politique, Julien.
C'est un amoureux des voitures. La passion lui a été transmise par son père, mécanicien. Il aime tout ce qui a un moteur, en fait. Il a aussi un brevet de pilote. Et c'est aussi un célibataire qui va s'installer dans le palais présidentiel. Un magazine l'a même élu l'homme le plus sexy du pays. Peter Pellegrini prendra ses fonctions le 15 juin prochain.
Alors, est-ce que la Slovaquie risque de devenir une nouvelle Hongrie, comme le craignent certains observateurs ?
Ce n'est pas l'avis du chercheur slovaque Milan Nitsch, qui appelle tout de même le reste de l'Europe à garder un œil sur son pays.
Non, je pense que c'est exagéré. Je pense que Robert Fico n'est pas comme Viktor Orbán. Il continuera une politique populiste. Mais j'espère, et je le crois, que le système démocratique slovaque et la société civile, dont les médias, sont suffisamment forts.
Car en face, la Russie, bien sûr, mais aussi la Hongrie ne rateront aucune occasion d'attirer la Slovaquie dans leur sphère d'influence.
Merci, Julien Chavanne. L'Union européenne, est-ce que ça marche encore comme machinerie institutionnelle ? L'UE a en effet un fonctionnement pas toujours très clair ou très démocratique. Un fonctionnement sur lequel s'est interrogée l'universitaire française Céline Spector, professeure de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, avec laquelle je me suis entretenu. Dans un article pour la revue Esprit, elle formule des propositions de réforme des institutions de Bruxelles. L'UE doit, selon elle, réapprendre le langage du pouvoir. Je lui ai donc demandé par quelle réflexion et par quel chantier cela doit commencer.
Disons qu'il faut repartir, à mes yeux, de la philosophie des Lumières, et en particulier de Montesquieu, Rousseau ou Kant, hein, ces grands auteurs qui ont tenté de penser l'Europe. Alors à l'époque, ce n'était pas encore évidemment la construction européenne, mais c'était l'Europe. Ils avaient tenté de la penser, disons, de manière à la pacifier. Et plusieurs pistes étaient alors explorées, donc soit la piste par les institutions, l'idée d'un tribunal commun pour trancher les différends, soit la piste par le commerce, hein, ce qu'on appelait le doux commerce, qui devait avoir des effets pacificateurs sur les nations. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la piste du doux commerce, à laquelle on a beaucoup cru, par exemple dans les relations entre l'Allemagne et la Russie, a finalement, a échoué dans une certaine mesure. Et c'est l'Ukraine qui nous a réveillés de notre sommeil géopolitique et qui nous invite aujourd'hui à repenser le projet européen. Alors le projet européen, c'est pas seulement celui de la paix perpétuelle, hein, tel qu'il a été notamment exprimé par Kant, c'est aussi un projet de prospérité, de liberté, de solidarité, mais aujourd'hui, on le voit, ça doit être aussi un projet de puissance. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser, hein, dans le siège de Montesquieu, dans l'esprit des lois, une nouvelle distribution des pouvoirs au sein de l'Union européenne, une manière donc de rééquilibrer les pouvoirs dans ce qu'on appelle le triangle institutionnel, c'est-à-dire le Conseil européen et le Conseil des ministres, la Commission européenne et le Parlement européen.
Alors justement, rentrons un peu dans le détail. Vous dites que les institutions européennes, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont illisibles et que cette illisibilité contribue à nourrir l'euroscepticisme. Alors quelles seraient les grandes lignes pour vous d'une articulation nouvelle, à la fois plus claire et plus rassurante d'un point de vue démocratique, de futures institutions pour l'UE ?
Disons que de mon point de vue, hein, le plus important et le plus urgent, c'est de revaloriser le Parlement, d'en faire vraiment une chambre au sens fort, hein, une chambre basse, en imaginant le Conseil européen, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement et le Conseil des ministres de l'Union européenne comme une chambre haute, hein, comme une sorte de Sénat dans un système authentiquement fédéral. Alors dans cette idée, si vous voulez, le Parlement serait par exemple doté du pouvoir d'initiative législative qui appartient aujourd'hui simplement à la Commission européenne, qui joue en ce sens le rôle d'une sorte de super secrétariat général du Conseil. Et donc il importe de lui donner l'initiative législative et pas seulement, donc comme aujourd'hui, le pouvoir d'amender les lois européenne. De la même façon, il me semble très important de lui donner un budget accru. Hein, de nombreux, politistes, philosophes, économistes, hein, imaginent qu'au lieu des 1% du produit intérieur brut, de chaque État membre, dont le Parlement dispose aujourd'hui, on puisse passer à 3 ou 4%. Et de ce point de vue, doté d'un budget plus important, le Parlement européen pourrait mieux assumer des fonctions qui aujourd'hui ne sont pas complètement les siennes, comme une fonction sociale. L'Europe sociale, on en parle depuis longtemps, mais effectivement, elle n'a pas pu se faire au même rythme que l'Europe économique, parce que l'Union européenne n'est pas dotée de compétences sociales et que le Parlement ne peut agir qu'à la marge sur les conditions de travail, par exemple. Alors, outre le renforcement du budget du Parlement européen, il me paraîtrait très important d'introduire des réformes institutionnelles au sein du Parlement. D'une part, un meilleur contrôle des lobbies. D'autre part, évidemment, restaurer la procédure des têtes de liste qui avait été mise en place en 2014, mais abandonnée en 2019, c'est-à-dire que la majorité parlementaire permet d'élire la présidente de la Commission, alors qu'aujourd'hui, elle n'est avalisée dans un second temps, elle est désignée par le Conseil. J'aimerais aussi, avec d'autres, que soit renforcée véritablement l'identité des partis politiques européens, qui sont aujourd'hui des familles ou des partis parapluies. Et il faudrait que lors des élections européennes, on ait vraiment conscience qu'il y a des partis politiques européens qui ont des programmes différents. Et enfin, très important à mes yeux, j'aurais aimé, voir réformer le statut de l'élu européen, alors notamment avec l'idée que le parlementaire européen doit être plus proche de ses électeurs pour, essayer d'éloigner l'impression d'étrangeté, d'éloignement du parlementaire européen. Alors ça passe par une réflexion sur quelle est la circonscription, la bonne circonscription d'un parlementaire européen, par le fait qu'il vient faire campagne auprès de ses électeurs, par le fait qu'il revient auprès d'eux pour leur rendre des comptes, bref, qu'il y ait une sorte de permanence mobile que le parlementaire européen pourrait ainsi assumer afin de devenir un véritable tribun.
On dit que la musique adoucit les mœurs, mais peut-être après tout qu'elle éteint aussi les mauvaises intentions. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée la compagnie ferroviaire britannique Northern Rail, qui opère les liaisons de train entre le sud et le nord du pays. Elle a commencé à diffuser de la musique classique dans une trentaine de ses gares en 2022, une initiative qu'elle entend bien étendre et faire perdurer. Marie Billon.
Ce n'est pas le hurlement des roues sur les rails qui va calmer quelqu'un de mal intentionné. Ce n'est pas non plus une annonce dans le haut-parleur qui dit en substance « on vous a vu et on ne tolérera pas d'abus », non. C'est la musique classique qui fait fuir les fauteurs de troubles ou les dissuade de passer à l'acte ou de venir traîner dans les gares tout court. C'est la conclusion qu'a tirée la compagnie de chemin de fer britannique Northern Rail. D'abord 9 gares en 2022, puis quelques mois plus tard, plus de 20 autres ont décidé de passer des musiques inspirées par des grands compositeurs de musique classique. Northern Rail cite Handel, Beethoven ou Mozart pour adoucir les mœurs. Alors, pas tout le temps, ni en même temps dans toutes les gares, chacune choisit les moments où la musique est la plus effective en fonction des problèmes locaux, mais de manière générale, la compagnie a noté une réduction significative des gens qui traînent, qui font des graffitis ou commettent des actes de vandalisme pendant la phase de test. Northern Rail n'étaye pas ce verdict positif avec des chiffres, sauf pour dire que 35 gares vont continuer à faire de la virtuosité une vertu. Jouer de la musique dans les transports en commun, ce n'est pas nouveau, beaucoup de gares en Angleterre ont un piano disponible pour tous, les couloirs des stations de métro londoniens sont animés par des musiciens savamment sélectionnés, on les appelle les buskers. Plusieurs études ont montré que la musique pouvait en effet réduire le vandalisme dans certaines circonstances. Des restaurants de fast-food sont aussi arrivés à la même conclusion et ont changé leur programmation musicale. Mais les notes de musique n'ont pas une portée universelle. Northern Rail a quand même investi dans plus de 600 nouvelles caméras de surveillance sur ses quais. Au pire, les chefs de gare y verront des voyageurs joyeusement valser plutôt que de s'envoyer valser.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation Victor Hull. Restez avec nous, bien sûr, l'information continue sur RFI.